Irène Finkel, bonjour pour la radio Esprit Occitanie. Je suis au cloître des Jacobins en présence de Madame Bonnabel, qui est la conservatrice. Bonjour Madame.
Bonjour, bienvenue.
Merci. Alors aujourd'hui nous sommes venus pour que vous puissiez nous parler de l'expérience que propose Emmanuel dans votre cloître. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement cette expérience de mouvement que font toutes ces personnes quand on passe dans le cloître?
Alors on pourrait dire, pour faire simple, que c'est de la danse. En fait, c'est bien plus que de la danse, ou pas seulement de la danse. C'est une autre façon de découvrir un monument historique, en l'occurrence le couvent des Jacobins. Et c'est une découverte qui se fait avec le corps, en fait. Moi, je suis architecte de formation, donc je suis très sensible au volume, aux espaces, au son des espaces, aux différences de sensations qu'on a dans les différents espaces, et à la façon dont notre corps réagit en fonction des salles dans lesquelles on peut se mouvoir et qu'on peut traverser. On a, quand on visite le couvent des Jacobins, une succession de sensations et d'impressions différentes, l'église très haute, très majestueuse qui en impose, le cloître plus intime et cette petite chapelle Saint-Antonin qui est elle aussi plus intime, un peu sombre, parfois presque nostalgique. Et du coup, je voulais offrir aux visiteurs, à travers les interventions d'Emmanuel Bronsin, les interventions dansées, la possibilité de découvrir ce monument historique, pas de manière pédagogique, pas à travers l'histoire, pas à travers une visite guidée, en tout cas pas que, mais aussi de l'expérimenter par leur corps, les mouvements, les sensations du corps dans l'espace. Et la rencontre avec, c'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps déjà, et la rencontre avec Emmanuel Bronsin, qui a, je crois, exactement ça en tête aussi, de par sa pratique de la danse, a permis de le concrétiser.
Est-ce que c'est quelque chose qui va être permanent chez vous ici ?
Alors malheureusement non, pour l'instant ce n'est qu'une expérience qui est liée au temps dont Emmanuel dispose et au contrat qu'on a pu conclure avec elle, qui va du coup se dérouler seulement sur quelques mois. Nous verrons à l'issue de ces quelques mois si on peut donner une suite, mais en tout cas les ressentis de nos visiteurs sont très favorables, satisfaits, et moi, à titre personnel, je suis tout à fait contente de la manière dont les choses se déroulent. Donc, pour l'instant, c'est quelques mois seulement.
Alors, quelques mois pour nos auditeurs, vous pouvez préciser jusqu'à quand ?
Jusqu'à la fin du mois de juin.
Jusqu'à la fin du mois de juin, donc il reste effectivement...
Il reste peu de temps.
Peu de temps, voilà. On arrive à la fin du spectacle, voilà. Si j'ose dire.
Enfin, on ne peut pas tout à fait qualifier façade de spectacle, parce qu'en fait, les visiteurs sont partie prenante. On peut regarder, bien sûr, mais le mieux, c'est encore de participer, de danser, avec des mouvements très simples qu'Emmanuel propose de faire. Il ne faut pas être un danseur étoile pour pouvoir participer aux ateliers, bien sûr.
Alors, sans me faire l'avocat du diable, ici, c'est un lieu de recueillement, il me semble. Vous avez certainement des gens qui viennent ici pour que ce soit extrêmement paisible. Est-ce que vous n'avez pas des gens qui se sont plaints de ce genre d'expérience dans le cloître ?
Non, elle c'est très discret, ça se passe dans une chapelle. Ceux qui veulent être dans le cloître tranquille peuvent être tranquilles. Et puis c'est pas que un lieu de recueillement, c'est aussi un lieu de culture. Donc, les enfants ont le droit de jouer dans le jardin, de sauter, de crier.
Donc ça reste un lieu de vie.
Voilà, et c'est un lieu de vie. Il ne faut pas que le recueillement l'emporte sur le lieu de vie. Et y danser, c'est aussi en faire un lieu de vie.
La danse, c'est plusieurs fois par jour.
Alors, Emmanuel est là une bonne partie de la journée et après, elle met en route, il n'y a pas d'horaire précis, elle met en route les ateliers en fonction du public qui est là, de petits groupes qui se forment. Donc ça, c'est un petit peu en continu, en quelque sorte.
Le choix de la musique est adapté au lieu.
Oui, alors ça, c'est le choix d'Emmanuel, elle vous en parlera. Oui. Moi, je lui ai laissé carte blanche quant au choix de la musique. Ça aurait pu être sans musique aussi. Moi, je l'aurais imaginé, je crois, sans musique. Mais je pense que c'est plus facile aussi d'avoir une musique pour introduire à la danse et puis aussi pour faire en sorte qu'on appelle les visiteurs qui sont dans le cloître et les faire rentrer dans la chapelle. Voilà. Mais j'aimerais bien le tester sans musique.
Est-ce que vous l'avez testé avec la musique vous-même?
Non, moi je ne l'ai pas testé, pas encore.
Pourquoi?
Bah parce que j'ai laissé la place à tous les visiteurs qui sont passés, mais je me suis dit qu'avant la fin du mois de juin, il fallait absolument que je le fasse.
Oui.
Pour moi aussi vivre l'expérience.
Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu vous-même, en tant que directrice des lieux, un retour de certaines personnes?
Oui, on a des retours de personnes qui ont participé aux ateliers et qui en sont enchantées et qui, du coup, témoignent, c'est ce qui m'intéresse et c'était le but recherché, de cette façon de découvrir un endroit en se mouvant, en se déplaçant, en dansant, de le découvrir par le corps et qui disent que ça donne une âme supplémentaire, une dimension supplémentaire au lieu qu'ils n'auraient pas perçu sans ça. Donc c'est...
Et ça permet peut-être aussi aux visiteurs d'être en communion?
Ça, je ne sais pas.
Donc pour vous, c'est tout à fait quelque chose de... C'est un plus pour les lieux?
Oui, c'est quelque chose, il faut le dire peut-être aux auditeurs, c'est quelque chose qui ne demande pas d'inscription, qui est gratuit, qui est compris dans le billet d'entrée du cloître, et qui, effectivement, on peut le qualifier de plus, c'est-à-dire que c'est donné à ceux qui ont envie d'essayer, aucune obligation non plus, voilà, et ceux qui osent cette façon de découvrir le monument.
En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil et pour votre sourire.
Merci d'être venue jusqu'à nous.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour Emmanuel Broncin, nous étions il y a quelques minutes avec la conservatrice du cloître des Jacobins. Nous sommes passés vous voir tout à l'heure, vous étiez en pleine, alors je ne sais pas si on dit séance de danse.
Bah oui, vous pouvez, bien sûr.
Voilà, donc on n'a pas osé vous déranger, on a attendu que vous ayez terminé. Sans vous poser de questions, j'aimerais que vous nous expliquiez cette expérience.
Alors, cette expérience s'appelle « Les impromptus dansés ». J'ai mis longtemps à trouver un titre, parce que je sais que le mot « danser » fait très peur aujourd'hui. Mais j'ai quand même appelé comme ça, parce que, en fait, sous forme de chorégraphie éphémère, j'amène le visiteur de tout lieu à une visite singulière dans laquelle on ne regarde pas uniquement, on investit le lieu avec le corps. Je pense que quand on investit un lieu, notamment cette chapelle Saint-Antonin, à travers, non pas de la danse, mais des gestes dansés portés par la musique et par l'énergie d'un lieu, la mémoire s'imprègne d'émotions. En fait, la danse dégage des émotions, la mémoire s'en imprègne, et le souvenir s'incarnant dure plus longtemps. Le façonnage urbain actuel est tel du corps qu'on en oublie notre signature humaine, qui est celle de s'exprimer avec le corps.
Comment vous est venue cette idée de proposer aux différents musées, parce que effectivement, on peut l'expliquer à nos auditeurs, aujourd'hui nous sommes au cloître des Jacobins, je vous ai déjà vu sur une première expérience au Muséum d'Histoire Naturelle au Jardin des Plantes il y a quelques semaines, où vous faisiez pas tout à fait la même chose, puisque vous le proposiez sur un autre rythme, on était dans un autre endroit, donc on voit bien que vous adaptez et les mouvements et la musique à l'endroit, puisque ici on est sur quelque chose de beaucoup plus austère, je crois qu'on peut le dire comme ça. Comment vous est venue cette idée, cette envie, et qu'est-ce que vous voulez exactement offrir aux visiteurs des musées en leur apportant cette expérience?
Alors, pourquoi l'idée des impromptus dansés? J'ai eu traversé une épreuve de vie et le directeur administratif à l'époque du Théâtre du Capitole, dans lequel j'ai travaillé de nombreuses années, m'a conseillé d'aller voir Francis Duranton, qui est le conservatoire du muséum, un paléontologue captivant, avec qui nous avons beaucoup parlé. Et à la fin de cet entretien, il m'a posé la question... Emmanuel, que peux-tu faire pour le muséum? Et je pense qu'il s'attendait à cette réponse-là. Et en rigolant, je lui ai dit, ben, je vais faire danser tes visiteurs. Et puis c'est resté en suspension. Et j'ai commencé à retourner. En fait, j'avais un peu perdu les raisons pour lesquelles j'avais fait ce métier. Et j'ai recherché dans l'anthropologie, dans la danse populaire. Je me suis vraiment nourrie de tout ce qui concernait la danse et il m'est venu effectivement l'idée d'essayer de faire un projet qui amènerait le visiteur à ne plus être simple spectateur mais acteur de toutes les visites qu'il pourrait faire dans différents lieux. Donc La chorégraphie, Maggie Marin, une des plus grands chorégraphes français, dit toujours que la chorégraphie, c'est la science du rythme et la science de l'espace. Sachant que je voulais faire danser des visiteurs, je n'allais pas m'appuyer sur un langage chorégraphique compliqué. Donc c'est là où je suis arrivée au geste, puis au geste dansé, car le geste dansé est porté par la musique, tout simplement, à essayer de créer des moments uniques qui pourraient unir les spectateurs en adéquation avec un lieu. Donc le choix musical est important. Au muséum, j'ai choisi de faire les correspondances corporelles par rapport aux trois milieux représentés au muséum, le milieu aquatique, le milieu aérien et le milieu terrestre. Et donc on a fait une mise en corps pour déverrouiller un peu certains verrous du corps. Et après, une chorégraphie, un impromptu dansé. Et ici, à la chapelle Saint-Antonin, j'ai décidé par rapport au lieu et l'énergie. En fait, je vais dans un lieu, je ressens une certaine énergie et j'essaye d'être pertinente avec ce que je peux offrir aux visiteurs. Et ici, il m'a semblé logique que je choisisse la musique sacrée et que je fasse pas une messe dansée, parce que je ne veux pas qu'il y ait de connotation proprement dite religieuse, mais oui, je conserve quand même l'architecture d'une messe sur laquelle je greffe des mouvements qui sont sortis d'iconographie religieuse, ce qui permet aux visiteurs de regarder différemment, de se mouvoir différemment dans le lieu et surtout d'être en partage avec moi, qui les guide quelque part, mais surtout avec les autres.
Emmanuel, est-ce que vous l'avez proposé à d'autres conservateurs sur Toulouse, ce projet déjà ?
Pour l'instant, oui, j'ai eu des demandes. Le projet est vraiment un début expérimental et j'avais besoin de cette expérience pour déjà savoir comment le public allait accueillir cette idée. Cette innovation en fait, et j'avoue que c'est très encourageant. J'ai des gens à la chapelle Saint-Antonin qui sont bouleversés à la fin des impromptus dansés. J'ai des personnes qui pleurent, qui me prennent dans leurs bras, et je veux pas rentrer dans le dramatique ni dans le romantique ni dans mais l'union que crée ce moment de danse reste magique pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont pu y participer.
Alors, je vous interromps, Emmanuel. Vous venez de prononcer le mot « union ». Tout à l'heure, quand on a interviewé la conservatrice, je lui ai demandé si elle pensait que c'était une communion. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas répondre. Est-ce que vous pouvez nous donner une réponse ? Est-ce que vous pensez que ce que vous proposez fait une communion pour les gens ?
Oui, je le pense. Oui, je le pense, et je pense que c'est toujours ce que j'ai aimé lors de ma longue carrière sur scène. On rentre en communion avec le public.
Et le public dans la rentre en communion entre eux.
Exactement. Et là, sans avoir de quatrième mur que j'ai abattu, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, mais on est tous ensemble. On est en communion parce qu'on est capable de se regarder, on ne se connaît pas, on est capable de se prendre la main, on est capable d'être ensemble sur un même rythme et un même geste, et donc on arrive à un état de communion tout à fait.
Impromptu danser, à quel rythme ? Combien de temps ça dure ? C'est-à-dire que les gens passent, s'arrêtent, vous les interpellez pour qu'ils viennent danser, entre guillemets, je prononce le mot danser entre guillemets, pour qu'ils viennent faire des mouvements coordonnés sur la musique choisie en fonction du lieu avec vous, à quel rythme de la journée et combien de temps ? Donc tout à l'heure, la conservatrice nous avait dit jusqu'à fin juin, avant que ce soit certainement renouvelé d'ici quelques temps ici au cloître des Jacobins, mais dans la journée, à quel rythme et combien de temps ?
Ici, à la chapelle de Saint-Antonin, c'est vrai que c'est un public plus contemplatif. Et je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Donc j'ai choisi une formule. Déjà, j'ai choisi des musiques qui sont des arias qui durent une certaine durée. C'est 6 minutes, à peu près, 6 minutes. Donc il y a un placement en tout et pour tout. Un visiteur peut passer 10 minutes avec moi parce que je prends quelques minutes pour expliquer, pour placer les gens dans l'espace. Et puis, on démarre. Et la musique dure 6 minutes. Il y a beaucoup de gens qui font le tour du cloître et qui veulent revenir et revenir et revenir, ou d'un jour à l'autre, je les vois revenir. J'ai plusieurs chorégraphies, je m'adapte à la situation des gens. J'ai eu des personnes handicapées, j'ai eu de tout âge, donc il y a certaines impromptues dansées où je fais le choix de laisser les personnes assises pour qu'elles puissent être dans la contemplation plus que dans un effort physique. Et les gens, il y a une petite affiche devant la chapelle Saint-Antonin qui explique le projet. Et parfois, quand je vois des gens arriver à la porte et qu'ils n'osent pas, ou parfois avec des smartphones juste pour prendre la photo, je les encourage en disant « Voilà, je suis là. Si vous avez envie de participer à un impromptu dansé, faites appel à moi. »
Et combien de fois par jour ?
Ben, je suis arrivée en 3 heures, parce que je fais de 14h à 17h. Il m'est arrivé, notamment les week-ends, d'arriver à faire 25 impromptus.
Ah oui, c'est énorme.
Et comme une journée aujourd'hui, là j'en suis à mon 10e et il est, il me semble, 17h. Donc on en a fait 10. Et la musique appelle le monde. Le monde appelle le monde.
Bien sûr.
Et c'est vrai que ça met une autre ambiance, même dans le cloître. Souvent, les étudiants viennent me remercier en sortant, en me disant « ça fait tellement de bien d'écouter de la musique ». Ou j'ai souvent des personnes qui passent et qui me disent « enfin, de la musique sacrée dans un lieu sacré ».
Je rebondis sur le mot « étudiant ». Qui dit étudiant dit souvent « petit budget ». On rappelle que l'expérience est gratuite, puisque...
Totalement.
Il y a simplement le prix de l'entrée dans le cloître et qu'avec cette entrée, on peut profiter de cette expérience.
Exactement.
Vous avez envie de le proposer à tous les musées ?
Oui, c'est vrai que je souhaite
apporter...
Parce
que c'est un nouveau travail à chaque fois, puisqu'il faut adapter suivant le lieu, il faut adapter les musiques, il faut adapter les mouvements, comme on l'a dit.
Oui, en fait, ce que je trouve fascinant dans toute cette histoire, et merci la vie quelque part, c'est que j'ai toujours été très interprète. Donc bien sûr que dans l'interprétation, il y a une création. Mais je ne me suis jamais osée à la chorégraphie, bien que j'ai aidé de nombreux chorégraphes et bien que...
Vous êtes danseuse au départ.
Oui. Ma carrière, c'est que j'ai été danseuse principale dans trois grands théâtres nationaux. Et c'est la première fois que j'ai la sensation de réaliser ma propre création. Et ce qui est amusant, c'est que c'est de la création, mais qui va vers la médiation. Et mon parcours, j'ai commencé la danse au Brésil très jeune, parce que mes parents étaient expats. Et c'est un pays qui, je pense, m'a marqué à vie. Parce que tout le long de ma carrière, j'ai commencé, j'avais 16 ans et demi, j'ai toujours été attirée par la médiation. La médiation, c'est un mot qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais on vient de parler de partage, de communion. Mais c'est ça, c'est la relation à l'autre. Au Brésil, les gens ne vivent pas pour la danse, ils dansent leur vie. Et depuis petite, on était habitués à tous les mois partir dans les favelas, dans les villages autour de Rio, pour faire des spectacles, pour intégrer les gens. Et je pense que tout ça m'a suivie dans ma carrière. Et aujourd'hui, après avoir été danseuse principale, après avoir été directrice d'études d'un conservatoire à Madrid, après avoir été maître de ballet ici au Ballet du Capitole et avoir fait beaucoup, beaucoup de projets dans le monde, je reviens à quelque chose que j'ai appris petite et qui me tient à cœur, parce que je pense que quand on est artiste, l'acte artistique est social, politique et surtout doit apporter du bonheur aux gens.
Et avant tout du partage.
Et avant tout du partage, exactement.
Vous avez envie de rajouter quelque chose, Emmanuel ?
Non, je pense que j'ai tout dit.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci pour le temps accordé. Au revoir.
Au revoir.
C'était Irène Vinkel pour Esprit Occitanie, en direct du cloître des Jacobins. À bientôt, au revoir.